désormais de côté.
Merci. Donc bonsoir à toutes et à tous. La première chose à dire, c'est que je n'ai pas de voix. Ce qui me convient très bien pour dire ce qui me convient très bien pour dire ce que je veux dire, parce qu'en fait, c'est une espèce d'une performance que je fais ici, n'ayant pas de voix pour parler de Dieu. C'est la résumé de mon propos. Alors, merci beaucoup pour l'invitation, pour l'accueil. C'est ma première fois à Grenoble et je suis très content. C'était une belle journée. Je pars demain malheureusement parce que j'ai pas trop de temps, mais ça donne envie de revenir. Donc merci Alejandro, Alexis et tous les autres et à vous tous pour l'accueil. Où ça?
La Coupe Icare, un peu plus loin, c'est le festival mondial de parapente.
Ah bon?
Et demain, il y a un concours de déguisement, donc des jeunes qui s'envolent déguisés.
Je vais essayer de me déguiser.
Puisque vous êtes là, vous voyez un peu le chronologue qui a une réputation mondiale.
Ah, très bien. Alejandro, tu ne m'as pas dit ça.
Je vais quand même écouter la chanson, c'est essentiel.
Donc, je vais essayer quand même je vais essayer que ma voix ne me trahit pas trop. J'ai donné un titre un peu bizarre, l'enfer de l'interprétation. C'est un titre que j'espère qu'à la fin soit plus ou moins clair le pourquoi de l'avoir choisi. Et pour parler de cet enjeu de l'interprétation, je voudrais commencer en parlant de la figure du témoin, aussi pour des raisons que j'espère que seront évidentes pour toutes et tous à la fin de mon propos. Donc, il n'y a qu'un problème théologique vraiment sérieux, c'est le témoignage. Vous avez compris que j'ai fait une paraphrase d'Albert Camus. Et donc, si cette provocation initiale, qui est une paraphrase camusienne, n'est que partiellement correcte, qu'il n'y a qu'un problème théologique vraiment sérieux, que c'est un témoignage, il me semble qu'elle est néanmoins parfaitement légitime. Elle n'est que partiellement correcte parce que, en fait, la véritable question théologique, nous le savons tous, est celle de la révélation. Ça, c'est le centre de la question théologique. C'est-à-dire, la façon que j'ai de comprendre le mot révélation, l'autocommunication libre de Dieu. Le fait que Dieu parle, que Dieu agit, qu'il donne sa vie, la grâce qui nous est inaccessible, mais qui se rend elle-même accessible. C'est-à-dire Dieu pour nous, Dieu lui-même qui se communique à nous. Mais, précisément parce que la révélation nous est inaccessible, même si elle se rend accessible à nous, puisqu'elle ne peut être réduite à une objectivation, on ne peut pas vraiment la saisir, la révélation. Elle n'est pas disponible que par la médiation d'un témoignage qui la rend même recevable. Si ce n'était le témoignage, on ne la recevrait pas. Puisqu'elle est médiatisée même dans sa réception, ne serait-ce que par un acte de langage, alors c'est la révélation même qui, par son mode d'apparaître, de se nous donner, fait du témoignage un problème théologique majeur. Et donc, peut-être que je force un tout petit peu la question, mais il n'y a qu'un problème théologique vraiment sérieux, c'est le témoignage. En fait, qu'est-ce qu'on peut dire de la révélation de Dieu? Dès lors qu'il n'y a de révélation que là où on en témoigne. c'est tout à fait vrai que la révélation est au-delà du témoignage. C'est vrai que la révélation est l'au-delà du témoignage. C'est en quelque sorte l'excès qu'aucun témoignage ne peut jamais offrir dans les limites étroites d'une appréhension qui est toujours interprétative. Quand je reçois un témoignage, je le reçois toujours avec mes filtres interprétatifs. On dirait même que la révélation est ce qui se donne malgré les limites et les fragilités, voire les infidélités des interprétations et des expressions des témoins. Mais la révélation, c'est aussi ce qui se donne toujours à travers le témoignage. C'est dire qu'il n'y aurait, je cite là un auteur, un théologien calviniste qui habitait pas très loin de nous, qui s'appelle Karl Barth, il dit « Il n'y aurait pour nous aucune révélation si elle ne nous parvenait par le témoignage qui en est rendu. » C'est dire enfin que pour croire en Dieu, il faut croire aux hommes et aux femmes. Et voici pourquoi, pour le théologien, Dieu est toujours, en quelque sorte, au risque du témoignage. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles l'interprétation est l'essentiel du métier du théologien. Et je dis ici théologien, mais peut-être que je pourrais même dire du chrétien. C'est une espèce de inside job. Je ne sais pas comment traduire ça en français, mais vous le comprenez. J'en reviendrai à ça. Pardon ?
Inside job ?
Oui. Le témoin ne rencontre jamais en Dieu qui ne soit au risque du témoignage. Pourquoi ? Déjà parce que la question « qui est Dieu ?» est toujours le revers de la question « où est Dieu ?» Je m'explique. Pour le témoin, comme pour le théologien, il n'y a aucune enquête sur le Dieu qui parle qui ne commence par aborder son identité indépendamment de son action dans l'histoire. On ne sait rien de Dieu en dehors de son action. Et donc, la réponse à la question « qui est Dieu ?» est d'abord une réponse à la question « où est-ce que je trouve ? Où est-ce qu'il se manifeste ? Où est Dieu ?» La tradition chrétienne identifie ce lieu de la révélation, nous le savons tous aussi, pour nous c'est clair, où est Dieu ? C'est l'événement de Jésus-Christ. C'est là le lieu où l'unité de Dieu avec l'homme qui passe, c'est une expression de Everard Junger. C'est là que Dieu se manifeste, dans ce lieu, c'est-à-dire l'événement de Jésus-Christ. Mais que ce soit ainsi, voilà ce qui reste encore caché, tout en se révélant. Dans la concrétude historique de cette contingence humaine, quand je regarde l'homme Jésus, je dois encore croire que c'est Dieu qui se révèle dans cet homme Jésus. Un récit évangélique peut-être peut nous aider peut m'aider à illustrer ce que je veux dire. Pensez au récit de la Transfiguration. Sur le mont Tabor, les disciples n'ont aucun doute sur ce qu'ils voient. En Jésus, d'un côté, avec qui ?
Moïse,
de l'autre côté, Élie. Ils n'ont aucun doute sur ce qu'ils voient. Ce n'est pas l'intuition qui fait défaut. Ils voient. Mais ils restent suspendus au bord des mots, ils ne savent pas le traduire. C'est une espèce d'une survision. Il y a une intensité insupportable qui le jette à terre et le rend craintif, dit l'évangile de Matthieu. Et en commentant ce passage, l'auteur, le philosophe français Jean-Luc Marion dit ceci. Il s'ensuit que la véritable difficulté devant ce phénomène vient du manque de nom divin ou du manque de nom divin ou du moins de mots appropriés à cette manifestation divine. C'est comme si on voit, mais je ne sais pas le traduire, je ne sais pas le décrire, je n'ai pas de mots qui correspondent à ce que je vois. Et c'est ça l'embarras du témoin, du témoignage. Une inadéquation entre la limite des concepts et la surabondance de ce qui est donné dans la révélation de Dieu. Les mots n'arrivent pas à dire la révélation. Et donc, chercher à identifier Dieu dans les marges très étroites d'une définition est la tentation de celui qui croit pouvoir donner par soi-même le sens adéquat de Dieu. Et le regard du témoin doit être d'abord regardé pour qu'il puisse se voir. C'est une intuition que je trouve très belle aussi de Jean-Luc Marion. Il y a un livre qui s'appelle « La révélation » que je vous conseille, si vous voulez, à lire un peu. Cette idée que il prend l'exemple de l'icône. L'icône, c'est une peinture, décrit quelque chose. Mais en fait, l'icône me dit plus que ce que je peux dire en disant l'icône. Parce qu'en fait, je peux regarder l'icône et dire des choses, mais pour que l'icône soit l'icône me propose une révélation de Dieu. C'est comme si l'icône me regarde moi avant que je puisse regarder l'icône. La révélation doit être reçue d'ailleurs comme une voix qui sort d'une nuée, comme dans le récit de la transfiguration. C'est la signification donnée en excès, toujours en quelque sorte incompréhensible, insaisissable au regard. La révélation est donc proprement signe de contradiction. Vous trouvez cette expression dans Luc chapitre 2, le vieux Siméon que dit « Cet enfant sera un signe de contradiction ». C'est-à-dire, elle contredit ce que nous considérons comme notre logique. C'est un signe de contradiction, parce qu'elle contredit ce que nous considérons comme notre logique. L'excès de l'événement ne peut s'inscrire totalement dans la synthèse d'un concept. Ce n'est pas que celui qui dit Dieu ne sait pas ce qu'il dit, mais il ne comprend pas ce qu'il dit, parce qu'il ne peut pas l'unifier dans un concept qui soit complet. Que le Dieu en devenir soit au risque du témoignage, c'est donc aussi ce que justifie l'hésitation du témoin. Comment le témoin peut-il signifier Dieu dans ses paroles, ses actes et son existence? Comment puis-je devenir un témoin de Dieu? Car le témoin ne peut pas ne pas parler de Dieu. Le témoignage est irrépressible en lui, c'est plus fort que moi. Et simultanément, le témoin ne peut pas véritablement parler de Dieu, car il n'a pas vraiment les outils pour le faire. Le témoin est celui qui ne peut pas ne pas parler de Dieu, et en même temps, il ne peut pas parler de Dieu. Comment alors témoigner de Dieu? C'est toute la question de Moïse, devant le buisson ardent. Face au défi de parler au nom de Dieu, Moïse avoue la fragilité de ses limites. Il dit « Seigneur, je ne suis pas un homme doué pour parler, ma bouche et ma langue sont lourdes. » Exode chapitre 4. Et la lourdeur de la langue de Moïse est peut-être de l'ordre d'un empèrement physique. C'est en tout cas ce qu'ils pensent certains exégètes, que Moïse serait bègue. Mais cette lourdeur de langue, semble surtout être une insuffisance du langage et de l'action. L'hésitation de Moïse révèle la fragilité du témoignage. Comment traduire en mots ou en action la relation avec Dieu? Quelle grammaire pour la foi? Mais Moïse bégaye, c'est comme ça qu'on dit? Il bégaye et en fait il ne peut que bégayer. Il me semble qu'il y a en fait une fragilité du langage pour témoigner de la foi et qu'il faut bien l'accepter. Et à ce propos, je pense souvent à un texte de Michael Lunig. Michael Lunig n'est pas un théologien, il est un illustrateur et un comédien, il me semble, aussi. Et du fait qu'il n'est pas un théologien, il s'ensuit qu'il est peut-être beaucoup plus habité à traduire Dieu. Sans l'emprisonner dans un concept. Et l'unique, pour l'unique, Dieu est, dit-il avec une certaine pointe d'humour, je le cite, Dieu est un poème d'un seul mot, probablement un poème populaire. Je l'ai appris, dit-il, de mes parents lorsque j'étais enfant, alors qu'ils se promenaient dans la cour ou à l'intérieur de la maison. Mon père pouvait dire désespérément, « Pour l'amour de Dieu, où est ce fichu marteau ?» Et ma mère répondait, « Dieu seul le sait. » Et s'il trouvait le marteau et se martelait accidentellement le doigt, mon père devenait intensément spirituel et s'exclamait poétiquement, Jésus, Marie, Joseph. Ou bien, va avec Dieu, fils en diable. Imaginez, conclut Lunig, imaginez l'étonnement d'un enfant intelligent entendant tout cela avec des oreilles fraîches et un esprit ouvert. Le mystérieux mot Dieu traverse le cerveau et se loge dans les os où il reste pour toujours. Fin de citation. Lunig est visiblement un adepte de cette langue vernaculaire théologique enseignée dans sa langue maternelle. Ce qui trouble par contre son innocence, c'est la description catéchisée de Dieu. Le vieillard, c'est sa description, le vieillard barbu en chemise de nuit qui vit au paradis, lui semble bien moins attirant que le mystère décrit dans les interjections de son père devant l'épiphanie d'un marteau. Le discours de la foi peut être d'une rigidité intimidante. Mais, enfin, il suffit d'ouvrir parfois un livre de théologie. Le discours de la foi peut être d'une rigidité intimidante lorsqu'il est guidé par la prétention de la parole finale et définitive. Je parle du théologien, mais on pourrait parler du témoin, du chrétien de tous les jours, du catéchiste. Tout langage, et plus encore le langage qui a l'intention de pénétrer le mystère, le langage qui cherche à dire ce qui transcende l'immédiateté de notre expérience, a un caractère d'incomplétude. Et la question décisive pour le témoin, y compris pour le témoin biblique, enfin les exégètes me diront après s'ils sont d'accord ou pas, mais y compris pour le témoin biblique, l'auteur, le rédacteur ou les communautés de rédaction d'un texte biblique, mais aussi tous les témoins de toute la tradition testimoniale, la question décisive pour le témoin n'est pas celle de savoir comment choisir les mots justes pour dire ce qui restera de toute façon intraduisable. La question décisive pour le témoin est celle de savoir comment est-il possible de maintenir un discours simple et honnête sur un sujet qui ne ressemble à aucun autre, sur un objet qui ne peut être isolé et décortiqué pour être observé, qui ne peut être désassemblé en morceaux pour en évaluer ensuite la cohérence systématique, et qui, à toutes fins utiles, prend les dimensions d'un corps étranger aux pratiques culturelles et linguistiques. Un objet, je parle bien de Dieu ici. Alors, que signifie, on se demande quand même, nommer Dieu dans la fragilité du témoignage humain? Qu'est-ce que signifie dire Dieu? Moi, je suis convaincu que nous sommes souvent tentés par la technique et par la systématique. Nous prétendons trop souvent tenir un discours positif sur Dieu, trop sûr et trop assertif. Or, il faudrait ne pas oublier que c'est seulement sous tension que le langage est capable de parler honnêtement en toute situation et à plus forte raison lorsqu'il entend parler de Dieu. C'est le langage sous tension. Je m'explique. Si vous avez... Donnez-moi un peu de patience. Il suffit en fait de parcourir la tradition théologique pour se rappeler qu'il y a une tension dans la façon de dire Dieu. Je vous donne quelques exemples, sans prétention d'exhaustivité. Mais donc, parcourant des grands auteurs de notre tradition théologique, des pères de l'Église, Justin par exemple, il nous rappelle que, et je cite, « Personne ne peut nommer le Dieu innommable. » Clément d'Alexandrie dit que Dieu dépasse, je cite, il dépasse le lieu, le temps, le nom et la pensée. Et en fait, s'il existe un attribut certain de Dieu, c'est bien son caractère en circonscrit et ineffable, qu'on ne peut pas saisir, qu'on ne peut pas dire. Origène parle d'un Dieu, je cite, incompréhensible et inconjecturable. Basile de Césarée souligne que la connaissance de l'essence divine n'est que la sensation de son incompréhensibilité. Augustin, Dieu ne devrait même pas être appelé innommable, car le dire, c'est déjà parler de lui. Ça, c'est Saint Augustin. Thomas d'Aquin, oui, il y avait une question.
Pourquoi alors dire Dieu ?
J'arrive. Thomas d'Aquin, l'homme atteint le point le plus élevé de sa connaissance de Dieu lorsqu'il sait qu'il ne le connaît pas, dans la mesure où il sait que ce qu'est Dieu transcende tout ce que l'on conçoit de lui. C'est une espèce de... Comment on dit en français ?
Je sais que je ne sais rien.
Oui, c'est ça. Je sais que je ne sais rien.
Je sais que je ne sais rien.
Ouais. Maître Eckhart, je suis à la fin de la liste. Hein. Maître Eckhart, il appelle Dieu omninominabile, c'est-à-dire le Seigneur de tous les noms et de tous les actes de nommer, mais en même temps, innominabile, Seigneur sans nom. C'est la fin de la liste. Comment, pourquoi le faire? C'est la question. Dans son journal portugais, Mircea Eliade évoque la curieuse représentation de Dieu par Saint Sylvestre, que je vous cite. Dieu est comme un oignon, parce qu'il est bon et qu'il fait pleurer. C'est une espèce d'une paradéfinition de Dieu, qui n'entre guère dans l'architecture dogmatique des attributs divins. C'est inutile de chercher l'entrée oignon dans le dictionnaire critique de théologie, vous n'allez pas trouver, je suis allé chercher. Mais cette façon de parler de Dieu, cette paradéfinition, si on veut, offre une ouverture inattendue à une espèce d'explosion du langage sur Dieu. Elle nous fait comprendre autrement les choses. Parce qu'on résiste, via ce genre de cette façon de parler, on résiste à la tentation d'un langage reproductif que reproduit Dieu. Et on fait appel à un langage représentatif, c'est-à-dire que présente à nouveau, que représente, qui favorise la prise de conscience, en fait, de l'incomplétude de ce que je suis en train de dire. Je ne maîtrise pas ce que je suis en train de dire. C'est peut-être au contraire, c'est ce que je suis en train de dire que me maîtrise moi. Et ça fait toute la différence. Et donc, cette façon de parler de Dieu aplatit toute prétention de contrôle et nous invite même à recommencer constamment et de manière critique à apprendre à parler. C'est la distance entre la description catéchisée de Dieu comme un vieillard barbu en chemise de nuit au-dessus des nuages et l'interprétation enfantine de l'épiphanie dans un marteau qui fait une espèce d'un choc herméneutique, un choc d'interprétation qui est capable de faire apparaître un style de témoignage sans prétention à la vraisemblance que serait en fait de l'ordre de l'idolâtrie, mais à la vérité. C'est-à-dire, je ne présente à nouveau pas le Dieu, la figure de Dieu, mais la vérité que je suis capable de saisir de Dieu. Et donc, cette représentation culinaire de Dieu, de Saint-Sylvestre, Dieu est comme un oignon, nous décrit le risque de témoignage et l'enjeu de la théologie. La parole dont on témoigne est immaîtrisable, elle excède notre capacité herméneutique et notre capacité éthique. Nous sommes à la fois sourds pour l'écouter et dyslexiques pour la prononcer. Cette surdité n'est pas due à un défaut d'audition, mais en fait à une surstimulation. Dieu se me révèle d'une façon qui est plus forte que ce que je peux appréhender, capter. Et cette dyslexie n'est pas un défaut, mais un atout. L'incapacité de témoigner fait preuve que c'est vraiment du témoignage au nom d'autrui et en vue d'autrui qu'il s'agit, et pas en témoignage en nom propre. Je ne témoigne pas de moi-même. Chez le témoin et le théologien, l'inadéquation visible de son témoignage et de sa théologie fait preuve de transparence et de fidélité, ou en tout cas de tentative de fidélité. Je vous ai fatigué déjà ?
C'est bon.
Pardon ?
C'est l'enfer.
On
comprend.
Ouais, non, mais c'est pas encore l'enfer. C'est peut-être ici, nous sommes encore au paradis. C'est donc par l'interprétation qu'on approche la révélation de Jésus-Christ. Parce qu'elle se nous donne à travers les témoignages. Toujours, on n'a aucun autre accès à l'événement de Jésus-Christ qu'à travers les témoignages. Jésus ne s'érige pas en principe évident et immédiat, car nous n'avons pas accès à la façon dont le Christ voit et connaît les choses. Nous n'avons accès qu'à des interprétations de la façon dont le Christ voit et connaît les choses. En évangile, nous avons canoniquement 4 évangiles. qui nous parle de la vie du Christ, qui sont quatre interprétations de cette révélation de Jésus-Christ. Et la question est claire, donc, pour nous, les destinataires actuels de la tradition testimoniale, qui n'ont pas d'accès direct au Christ, et donc nous avons reçu le Christ à travers les interprétations testimoniales de la tradition, mais elle est tout autant pour les témoins oculaires de l'événement à l'origine. C'est-à-dire les disciples du Christ, qui en fait regardaient un homme et devraient croire qu'il est le Fils de Dieu. À travers ce qu'il a fait, bien sûr. Mais la même foi qui nous est demandée, nous, est demandée aux disciples à l'époque de croire que cet homme-là est le Fils de Dieu. Le témoin est celui qui transmet ce qu'il ou elle reçoit et interprète la révélation. Ça, c'est ma définition de témoignage. Le témoin est celui qui transmet ce qu'il reçoit et interprète de la révélation dans l'intention, c'est-à-dire, déjà, donc je vais petit à petit. L'acte de transmission, c'est ce que fait le témoin. Je transmets ce que j'ai reçu, Saint Paul le dit. Je vous transmets ce que j'ai moi-même reçu. C'est-à-dire que j'ai reçu. J'ai reçu moi, avec mes couches d'interprétation. Je n'ai pas reçu la révélation sans filtre. Je l'ai reçu en tant que Pedro. Et donc, ce que je vous transmets, c'est ce que moi, j'ai pu comprendre de cette réception, dans cette réception. Il y a déjà une interprétation dans ce que je vous transmets. Mais mon but, quand je transmets, c'est pas que vous connaissez ce que j'ai pu comprendre. C'est que Dieu, à travers ce que je vous dis, puisse lui-même vous parler. Et donc, le témoin est celui qui transmet ce qu'il reçoit et interprète la révélation, dans l'intention que, à travers cette transmission, Dieu s'autocommunique. Le témoin ne convertit personne. Il espère que Dieu puisse convertir la personne à qui il parle. Et donc, la transmission de la foi est le produit d'une myriade d'interprétations, de formulations, d'analogies, d'abstractions, toujours marquées culturellement, de telle sorte que l'événement christique n'existe pas. C'est dur ce que je vais dire. Préparez vos pierres pour me jeter. De telle sorte que l'événement christique, donc l'événement de Jésus-Christ, n'existe pour nous, il n'existe nulle part et à aucun moment, sauf sous une forme enculturée. Enculturée. I-N. Dans une culture. Sous la forme... Oui. Pour nous, on n'a jamais accès à l'événement de Jésus-Christ que l'événement déjà filtré dans une forme enculturée. Et en fait, l'incarnation est une enculturation. Il ne faut jamais oublier ça. L'incarnation est une enculturation. Et donc, en quelque sorte, le plus grand risque pour le théologien et pour le témoin est de présenter comme sûreté ce qui reste en cheminement inachevé d'interprétation. Toute interprétation théologique de l'expérience de la foi implique d'assumer l'embarras de devoir interpréter le don de Dieu en assumant même le risque de le trahir. C'est même le pari de la liberté qui est donné à l'herméneute de la foi, à l'interprète de la foi, par la révélation elle-même. Parce que la révélation se nous donne sous une forme culturelle, interprétée dans une culture. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Et là, prendre ce risque implique de recommencer à chaque étape, comme si d'interprétation en interprétation, en acceptant humblement l'excès de signification qu'offre l'esprit de vérité. La surprise de l'interprétation théologique est de découvrir que le processus de la foi en quête d'intelligibilité, la fameuse phrase en latin que vous aurez peut-être déjà entendu dire, Fides querens intellectum, la foi en quête d'intelligibilité, eh bien, cette quête est en soi lieu propice à la révélation. Dieu se nous donne dans la quête, pas dans la sûreté des concepts. La quête devient le lieu où Dieu se révèle. C'est-à-dire que la vérité est donnée non pas dans une formulation immuable, mais dans le processus dynamique de sa recherche. Et donc, au témoin comme au théologien, il ne nous reste plus qu'à interpréter. Encore et encore. Même en l'absence même du critère qui est pourtant présent, qui est Jésus-Christ, le seul critère, mais que nous ne maîtrisons pas. On n'a pas Jésus-Christ dans la poche. Donc on n'a pas le critère de façon maîtrisable. Mais il est présent. Mais il nous dépasse. Et c'est comme dans la table d'Emmaüs, quand les disciples comprennent finalement que c'est Jésus et qu'il est présent. Mais là, quand ils comprennent qu'il est présent, il disparaît. Il n'est plus présent. Il est absent. Mais il reste présent dans l'absence. Voilà. Je dois faire court, c'est ça? Même la théologie est en elle-même essentiellement une tradition interprétative. Et donc, elle est redevable de cette parole première et s'inscrit dans un genre d'interprétation qui ne se limite pas ni à l'exégèse historico-critique, ni, d'autre part, à la lecture allégorique du lecteur croyant, soucieux de trouver une source de nourriture spirituelle. Où se situe le théologien, on pourrait se demander. Se situe-t-il entre le critique et le croyant? En tant que critique, est-il encore capable de manger le livre, comme le demande Jean Grèche en faisant appel au langage prophétique? Et en tant que croyant, est-il encore capable d'une distance interprétative par rapport au livre qu'il nourrit? Qui plus est, en tant que critique et croyant, est-il conscient que le livre soit lui-même nourri par ses efforts d'interprétation? Le livre qu'il commente est lui-même nourri par ses efforts d'interprétation. Je reprends la célèbre formule de Grégoire le Grand. L'écriture grandit avec ceux qui la lisent. Scriptura cum legentibus crescit. Attention, Grégoire le Grand ne dit pas que on grandit avec l'écriture. Il dit l'écriture grandit avec ceux qui la lisent. C'est-à-dire que on découvre des univers nouveaux en lisant l'écriture, qui personne n'avait pas peut-être découvert avant. C'est le paradoxe du théologien. La théologie se situe à l'intérieur d'une tradition vivante et dynamique, qui est sa raison d'être, mais sa tâche est d'être une interprétation critique de cette même tradition. Et donc, c'est en jeu. Je me nourris d'une tradition et je contribue à cette tradition. C'est en va-et-vient. J'avance. Hein. Finalement, j'ai trop écrit. J'essaie de résumer. Il y a au moins deux raisons pour penser que l'interprétation est l'inside job de la théologie. L'une est méthodologique, c'est ce que je viens de dire. On n'a pas d'autre accès à la relation qu'à travers les témoignages. Donc on doit interpréter les témoignages. On n'a pas d'autre option. C'est ce qu'on fait. La deuxième est théologique, ou essentielle même. La théologie apparaît dans cette deuxième raison comme une interprétation, une herméneutique, parce que le motif d'étude théologique, qui est l'événement, donc l'objet de notre étude, qui est l'événement de la révélation, est en soi une interprétation de Dieu, une herméneutique de Dieu. C'est-à-dire, Jésus-Christ, il est en soi-même une interprétation de Dieu. C'est l'interprétation que Dieu donne de lui-même. Il y a une question. Oui. Oui, je ne parle pas de traduction, je parle d'interprétation.
Sauf des questions de, des éclaircissements, on va peut-être poser les questions à la fin si vous voulez bien.
Ok. En fait, je prends ici une idée qui n'est pas mienne, qui vient précisément de Calvar, qui a été reprise par d'autres théologiens aussi. Mais en fait, c'est l'idée que Jésus-Christ est à la fois, d'abord, il est Dieu qui se communique, il est la révélation. Dieu s'auto-communiquant, c'est ça la révélation. Mais en fait, il est le témoin véritable de cette révélation, au sens que il rend cette révélation de Dieu accessible à nous dans les conditions historiques pour qu'on puisse le recevoir. Il est un homme. Dieu incarné, c'est la révélation et le témoin de cette révélation. Je vous fais comprendre ? Mais si on veut aller plus loin, ce que ce témoin de la révélation qu'il est lui-même nous montre, c'est que Dieu a fait un choix. Et son choix, c'est d'être en Dieu pour nous. Et donc, dans ce choix, Dieu dit comment il se voit soi-même. Il s'interprète. Et c'est ça qu'il nous révèle. Donc, le fait que le Christ nous montre en Dieu pour nous, eh bien, c'est le témoignage de l'auto-interprétation de Dieu qui nous est révélé. On pourra en discuter. Il me semble qu'il y a des questions. Et donc, étant pour nous, il doit être accueilli, pardon, que Jésus-Christ se présente comme l'interprétation de Dieu. En fait, au lieu de fermer l'interprétation, ouvre la tâche interprétative. Pourquoi ? Parce que non seulement la reproduction exacte du Christ est une impossibilité, mais l'auto-interprétation de Jésus exige même une appropriation dans les conditions de réceptivité propres à l'histoire, propres à moi-même en fait. Étant pour nous, il doit être accueilli par nous comme étant pour nous. Je fais des courtes circuits logiques. L'événement de la révélation requiert encore le travail des médiations qui se donnent à l'interprétation. Cette chaîne d'interprétation qui trouve son origine dans l'événement christique établit une pratique d'interprétation avec une limite paradoxale. D'une part, Jésus-Christ se manifeste avec une historicité, une factualité qui empêche l'exercice théologique de tomber dans une complète relativité herméneutique, interprétative. Il y a une référence claire, il y a un critère en quelque sorte, même si un critère immaîtrisable. Mais d'autre part, cette historicité du Christ se donne à l'interprétation théologique et le fait qu'elle se donne à l'interprétation théologique est ce qui ne garantit pas au travail théologique une maîtrise définitive de son objet d'étude. parce qu'il n'est vraiment accessible qu'à travers la chaîne testimoniale qui en découle. Je reviens à l'enfer. On pourrait donc parler d'un Dieu au risque du témoignage et de l'interprétation. Et d'un témoignage et d'une interprétation embarrassée et fragile, en quelque sorte dyslexique pour laisser Dieu apparaître à travers une biographie qui est la nôtre. Qu'est-ce qu'on peut dire de Dieu en témoin ? Devant cet embarras, la tâche théologique d'interpréter le témoignage de la révélation devient une dynamique progressive d'approche à une parole immaîtrisable, impliquant, et pour le témoin et pour le théologien, une double conscience critique. D'une part, la conscience de la distance infranchissable entre la connaissance qu'on croit avoir de Dieu et l'être même de Dieu, qui est en devenir dans sa révélation. Et d'autre part, la conscience de la distance infranchissable aussi entre le désir de fidélité à la révélation que nous avons tous et notre inaptitude à le faire. On n'a pas les outils pour être vraiment fidèle à la révélation. Il y a pourtant deux tentations dans l'effort théologique d'interprétation du témoignage. D'une part, la tentation de l'interprétation définitive du dernier mot, de la vérité objective. D'autre part, l'obsession ou l'absolutisation des contextualisations. Donc l'enfer, l'interprétation définitive, le plus grand danger, à mon sens, le plus grand danger pour l'effort théologique, pour la vie chrétienne en général en fait, le plus grand danger n'est pas celui d'un témoignage au sens difficile à comprendre, mais d'un témoignage au sens domestiqué. Une interprétation du témoignage qui prétend avoir déconstruit le mystère devient incapable de générer de nouveaux témoins du mystère. C'est-à-dire, ça ne parle plus. On a domestiqué complètement. C'est infertile. Au mieux, on engendrait des nouveaux témoins de mon témoignage, mais pas de la révélation. Pour que le témoignage continue à parler, ou mieux encore, pour qu'il laisse parler la révélation dans toute son actualité, il ne peut que vivre dans le conflit des interprétations ou dans le dialogue des interprétations. Certes, discerné par la théologie, avec les instruments qu'offre la tradition, mais donc sans le « se » S-C-E-A-U « so », merci. Je savais que je ne prononçais pas bien. Mais donc, sans le saut de la seule véritable interprétation. Les témoins doivent être capables d'interpeller leur auditoire avec cette question imparable. Qu'est-ce que cela signifie pour toi, ici et maintenant? L'enfer de l'interprétation ne réside pas dans l'apparent conflit dans lequel le témoignage est. Donc, ce n'est pas ça l'enfer de l'interprétation, mais plutôt dans l'éventuelle impossibilité d'appréhender le témoignage parce que son sens se trouve déjà domestiqué. Et donc je ne peux pas le faire mien. C'est dire que l'enfer de l'interprétation, c'est la déclaration de la mono-interprétation, de l'interprétation officielle. Et on a la tentation trop souvent de faire des interprétations officielles de tout. Et que dire, je me tais, pour conclure. Donc, j'avais dit deux tentations, ça c'est la première. La deuxième, le relativisme interprétatif, l'absolutisation du contexte. Il suffit peut-être de noter qu'une théologie centrée sur le témoignage doit reconnaître que les contextes, tous les contextes, de l'auteur par exemple biblique, des témoins dans la tradition, de la médiation, de l'interprète, sont en fait ce qui donne corps à ce qui est transmis. Il faudra cependant ajouter qu'une théologie du témoignage atteindra ses limites si elle essaye de se concentrer exclusivement sur les contextes, sans comprendre que ce qui est essentiel pour une interprétation théologique, est ce que la tradition signifie sans contenir elle-même. Si on perd de vue que c'est la révélation qu'on veut en quelque sorte essayer de comprendre, au mieux, on perd la visée théologique de notre travail, voire de notre foi. C'est-à-dire, la révélation... Le risque d'une obsession du contexte est que l'interprétation théologique perde sa portée théologique. Mais il s'agit d'un risque à double sens. Perdre la notion que le témoignage se donne dans l'enveloppe d'un corps contextuel, culturel, représenterait encore une fois une absolutisation, voire une resacralisation du témoignage, puisque cela signifierait la perte de la distinction entre témoignage et révélation. Confondre témoignage et révélation, ce serait un problème. La fin. Dieu est au risque du témoignage et de l'interprétation. C'est un embarras, et pour le témoin et pour le théologien. Et d'ailleurs, est-ce que le théologien n'est-il pas aussi un témoin? C'est une question intéressante à creuser, mais que je pars ici, surtout parce que je perds ma voix. Le témoin atteste d'une vérité qui n'est pas la sienne, qu'il ne domine ni ne contrôle, pour laquelle il ne peut fournir des preuves, mais seulement les traces d'une tradition, quelque chose comme un tombeau vide, l'absence-présence d'une dynamique qui interpelle l'existence. Voici le signe d'une contre-culture capable d'une prophétie inattendue. Le témoignage de la révélation revendique la confiance de la part d'un monde, aujourd'hui, un monde aux vérités instantanées et à la demande. Mais en fait, depuis la première proclamation, le kérigme est attesté par des témoins qui, selon les critères humains, n'ont ni autorité ni statut institutionnel. Désolé pour les femmes qui sont ici, mais les premiers témoins de la résurrection étaient complètement presque sans valeur. En tant que témoin du seul fait d'être femme dans la culture de l'époque, sans valeur, sans autorité ni statut institutionnel. C'est précisément cette voie sans statut qui est la bonne pour l'interprétation et le témoignage. C'est la voie qui ne court pas le risque de la sacralisation. C'est l'interprétation qui ne court pas le risque d'être confondue par la révélation. Ni le témoin, ni le théologien ne sont pas des experts dans l'art de la rhétorique ou de la fabrication de la vérité, car ce qu'ils ont à dire habite l'excès des mots. Le témoin habite la crise du témoignage, le théologien habite la crise de l'interprétation, et ils le font avec l'assurance d'une force qui ne leur appartient pas et l'humilité qui en découle. C'est aussi dans ce dépouillement et dans cette vulnérabilité au cœur de la crise que le témoignage de la révélation devient crédible, en ne se laissant pas confondre avec la révélation, même s'il existe de et pour la révélation. Et donc, le théologien, que nous sommes tous en quelque sorte, doit encore apprendre chaque fois, à nouveau, l'art de recevoir ce Dieu au risque de l'interprétation, pour que, dans son travail à la fois critique et humble, et d'autant plus critique qu'il est humble, le théologien puisse venir à proposer une interprétation au risque de Dieu. Merci beaucoup.